suis un petit, moi. Donc, baissez le micro. Ouais, tout d'abord, vous donner les salutations de la part de Genève, dont vous êtes toujours dans le cœur. Je pense que vous n'en doutez pas et j'espère que vous n'en douterez jamais. Et nous avons bien des pensées pour vous dans ces moments un peu particuliers, peut-être, que vous vivez. Et sachant que de telles choses aussi vont pas tarder à nous arriver sur Genève et nous y préparons. Donc voilà, nous avons tous besoin de la prière les uns pour les autres et je ne peux que vous exhorter à nous renouveler là-dedans. Avant d'ouvrir la parole, j'aimerais juste prier. Merci notre Dieu, notre Père, pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir encore ce matin être ici réunis en ton nom, de pouvoir en toute liberté ouvrir ta parole et nous attendre tout à nouveau à ce que tu veux bien nous dire. Seigneur, veuille ouvrir nos esprits au tien, afin que nous puissions être toujours plus des enfants fidèles là où tu nous places. Dans le précieux nom de Christ. Amen. Je ne sais pas si vous savez, mais il paraît que plus du tiers de nos contemporains qui vivent en couple font espionner leurs conjoints. C'est extraordinaire quand même. Hein ? Les font épier, ils les font suivre. Alors, il n'y a plus besoin maintenant, paraît-il, de louer quelqu'un pour le faire. Les moyens modernes permettent d'avoir et de savoir ce que fait l'autre, n'est-ce pas? Et tout ça parce qu'il y a un évident manque de confiance en l'autre. Et je me dois de vous avouer que c'est pour moi toujours une douleur qui m'étreint à chaque fois que j'apprends qu'un couple se sépare. Ou qu'une amitié s'arrête. Et cette douleur, elle me touche tout autant que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens à qui cela arrive. Car je me trouve tellement privilégié, quelquefois un peu égoïste, lorsque, en parlant avec mes collègues, je suis amené à dire que non seulement je suis heureux d'avoir 37 ans de mariage, mais que si je pouvais signer encore pour une fois autant, je le ferais les yeux fermés. La certitude de l'amour humain est quelque chose qui est toujours nié lorsque j'en parle avec mes collègues, que ce soit pour un couple ou pour une amitié. Comment peux-tu être sûr de l'amour de ton conjoint jusqu'à la fin de tes jours? C'est impossible d'être fidèle, n'est-ce pas? Quelle désespérance autour de soi. Je suis effaré par ce manque de certitude concernant la fidélité à vie. Les échecs, nous dit-on, les loupés deviennent pour certains tellement banaux qu'ils font, comme on dit, partie de l'expérience de vie, n'est-ce pas? Mais en creusant un peu au fond de nous-mêmes, nous sommes tous très demandeurs de posséder cette certitude inébranlable de l'amour. Alors qu'en est-il de l'amour de Dieu? Est-ce pareil? Oh, certes, ce matin, je ne vais pas répondre à la question en ce qui concerne la certitude de l'amour humain. Non. Mais en tant que chrétien, je peux vous garantir que pour chaque croyant que nous sommes, l'amour de Dieu est certain. En tant que chrétien, je suis quotidiennement reconnaissant de la grâce que le Seigneur me fait de vivre dans son amour tous les jours. En dépit parfois de beaucoup d'événements déstabilisants, Comment être sûr de l'amour de Dieu pour nous? Et pour cela, je vous propose de lire un texte fondamental que nous trouvons dans l'Épître aux Romains. Nous prendrons chapitre 8, mais nous lirons à partir du verset 31 jusqu'à la fin du chapitre. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment, on nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. D'après ce texte, nous avons au moins trois bonnes raisons d'être sûr de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est plus grand que le péché. L'amour de Dieu est plus grand que les circonstances. Et l'amour de Dieu est bien plus grand que l'adversaire. Et c'est ces trois propositions que j'aimerais examiner un petit peu avec vous ce matin. L'amour de Dieu est plus grand que le péché, plus grand que nos péchés passés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Comment comprendre et accepter l'amour de Dieu si nous ne nous en remettons pas à l'œuvre du Christ sur la croix pour nous? Mais comment la comprendre, cette œuvre du Christ? Henri Blocher décrit cela très bien. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que c'est du Henri Blocher que c'est très compliqué. On arrive quand même à le comprendre. Et il nous dit ceci, le mal est vaincu comme mal parce que Dieu le retourne contre lui-même. Le Seigneur fait du crime suprême, de l'assassinat du seul juste, l'opération même qui abolit le péché. C'est une manœuvre inouïe. On ne connaît pas de victoire plus entière que celle-là. Le mal, comme un judoka, profite de la force du bien qu'il pervertit. Eh bien, lui, le Seigneur, comme le champion suprême de tout, il va riposter en utilisant la prise même de l'adversaire. Je ne sais pas si Henri Blocher avait fait du judo, mais il a tout à fait raison. Dans ce sport, je ne sais pas si vous le savez, c'est la force de l'autre qui vous donne plus de force pour réaliser vous-même votre prise. Et si le mal avait perverti le bien, Dieu en a servi de cette force-là pour la mettre définitivement au pied de la croix. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça nous permet de comprendre un verset un peu obscur de l'Écriture parfois, que nous trouvons dans le psaume 18 au verset 27. « Avec le pur, tu es pur. Avec le pervers, tu es retors. » C'est donc comme cela que l'amour est porté à son comble pour nous. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils pour nous tous. Amour suprême. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait par le passé, Dieu et son amour est bien plus fort que notre péché. Et c'est pourquoi dans sa grâce, il pose ainsi une question en présupposant une réponse positive. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui ? Par grâce, nous dit l'apôtre. Il n'est même pas envisageable qu'il puisse en être autrement. En effet, nos péchés, il en est de ce que dit même le psalmiste, psaume 103, verset 10, « Il ne nous traite pas selon nos péchés. » Et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous à jamais nos iniquités. Vous avez bien remarqué que l'auteur ne dit pas le nord au sud, hein. Ce sont là deux points que l'on peut atteindre. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, qu'il éloigne nos iniquités. Mais alors, qu'en est-il de nos péchés présents ? Là aussi, l'apôtre nous exhorte et il nous rassure. L'amour de Dieu est bien plus grand que nos péchés présents. Verset 34 que nous avons lu. Qui condamnera ? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus. Il s'est réveillé ou il est ressuscité selon les traductions et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui condamnera aujourd'hui ? L'apôtre nous rappelle encore fortement que celui qui a vaincu la mort, il l'a vaincu pour mon péché, pour nos péchés, passé et présent. Et point n'est besoin d'actes expiatoires à renouveler. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait affirmer d'entrée de jeu ce qu'il nous dit au verset 1er de ce chapitre 8. Il n'y a donc maintenant, pas plus tard, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, la nouvelle extraordinaire de ce verset 34 que je viens de relire, c'est qu'en ce moment-là, actuellement, notre Seigneur ressuscité intercède. Il prie le Père pour nous. Et par cela même, il nous fortifie et il nous montre combien, en tout lieu et en tout temps, il ne sommeille ni ne dort, celui qui prend soin de ses enfants. Oui. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ ne cesse d'intercéder pour nous. Rendez-vous compte, en ce moment même, vous n'êtes pas ignoré, vous êtes aimé de Dieu. L'amour de Dieu est plus grand que le péché, oui. Mais l'amour de Dieu, il est aussi plus grand que nos circonstances. Et l'apôtre nous le dit ici au verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée ? Le chômage, le deuil, la maladie, l'accident. Et vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Qui nous séparera. Dans nos vies, il y a parfois des circonstances qui paraissent s'opposer pour nous à l'amour de Dieu. Dieu m'aime-t-il quand il permet le chômage, la maladie, l'accident, le deuil ? Dieu m'aime-t-il quand il permet la mésentente familiale, les frères et sœurs en Christ insupportables ? Parce que ça arrive, hein. Peut-être pas chez vous, hein, mais Dieu m'aime-t-il? Et pourtant, l'apôtre, en posant la question qui nous séparera de l'amour de Dieu, ne laisse-t-il pas là entrevoir le fait que cela est possible? Mais n'est-ce pas là plutôt peut-être une question qui peut paraître saugrenue? Car l'amour de Dieu est tellement parfait qu'il peut paraître saugrenu de penser qu'une fois accordé, il peut nous être ôté. Toutefois, l'apôtre n'est pas en dehors des réalités. Et c'est pourquoi il cite là des circonstances toutes humaines, dramatiques même, et pragmatiques que vivaient forcément ses lecteurs. Ces réalités peuvent amener le croyant à penser qu'il n'est plus aimé de Dieu. Peut-être que les circonstances actuelles pour certains sont pour le moins troublantes. Mes repères, vos repères changent peut-être. Votre sécurité en prend un coup. Mon corps ne suit plus, comme on dit, n'est-ce pas? La fatigue physique, morale et spirituelle est à son comble. Nous ne devons pas nous décourager. Douter lorsque justement ces circonstances nous font penser que Dieu ne nous aime plus, ou moins bien qu'avant peut-être. Car, nous est-il dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Son amour, au contraire, au travers de certaines de nos circonstances, nous apparaît, croyez-moi, ô combien plus précieux, plus présent que si notre ciel était toujours bleu. Or, si nos circonstances sont adverses, et l'apôtre, qui en a connu beaucoup de circonstances adverses, nous rappelle ici qu'elles ne peuvent s'opposer à l'amour de Dieu pour nous. Ces circonstances ne peuvent annuler l'amour de Dieu pour nous. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Ce verset 32 nous indique bien où l'amour de Dieu s'est accompli pour nous. L'apôtre vient de le rappeler. À la croix, là où le Fils n'a pas été épargné pour nous. De prime abord, la vision de la croix n'est-elle pas quelque chose de négatif? Et pourtant, il en sort le plus positif qui soit pour nous. Notre salut par la manifestation suprême de l'amour de Dieu pour tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ. Ainsi, quelles que soient nos circonstances de vie, nous pouvons ressentir par l'Esprit Saint la présence et l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et l'apôtre, au verset 37, le dit, « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » En Genèse 4, souvenez-vous, Caïn, nous est-il dit, devait dominer le péché. On sait ce qu'il en est advenu, n'est-ce pas? Et s'il en est de même pour nous, nous possédons en nous une force qu'il n'avait pas à lui. C'est la puissance du Saint-Esprit que notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu le mal, a décidé de donner à tous ses enfants. C'est une grâce que le Seigneur nous fait, d'avoir en nous son esprit. Après nous avoir décrit des situations ô combien précises et pénibles que le chrétien vit, l'apôtre affirme avec une autorité qui ne prête pas à la moindre contestation, que malgré cela, malgré nos circonstances adverses, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, me direz-vous, je ne vois pas vraiment dans quel domaine je suis plus que vainqueur. Je chute fréquemment. Je suis un pessimiste invétéré. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Eh oui, frères et sœurs, vous êtes vainqueurs de tout cela. Parce que d'abord, vous luttez devant Dieu avec Jésus-Christ comme soutien. Vous luttez dans la vie. Vous luttez dans l'adversité. Et vous êtes en cela aidé, soutenu, fortifié, même à votre insu, par celui qui vous a aimé bien avant la fondation du monde. Alors, regardons par la foi beaucoup plus loin que le bout de notre nez. Et prenons ce verset 37 non seulement comme une certitude, mais aussi comme une promesse présente et à venir. Croyez-moi, ce verset 37 n'a rien de comparable avec une certaine méthode couée. Mais il devient, croyez-moi, très réel lorsque par la présence et la nourriture quotidienne que le Saint-Esprit nous donne par la parole de Dieu, il va l'appliquer à nos cœurs, à nos vies, et ce, quelles que soient les circonstances. L'amour de Dieu est plus fort que le péché. Il est plus fort que nos circonstances. Mais il est également plus fort, bien plus fort, que l'adversaire, bien plus grand que lui. Ah, l'adversaire. Voilà bien un nom au singulier, mais dont la manifestation est très souvent plurielle et insidieuse. Il peut, nous le savons tous par expérience, n'est-ce pas, prendre tellement de facettes différentes. Et il nous faut donc être vigilants pour en déceler toutes les ruses. Mes chers amis, j'ai la conviction que l'endroit que l'adversaire préfère, c'est le couple et l'Église. Car il sait qu'il a encore peu de temps pour essayer encore d'en perdre quelques-uns. Soyons donc vigilants. L'amour de Dieu est plus grand que cela. Il est plus grand que les puissances spirituelles. Il nous le dit là au verset 38. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, etc. Oui. Oh, je sais que certains chrétiens pensent que les puissances spirituelles, ça n'existe pas. Et pourtant, la Bible les mentionne bien. J'en suis désolé pour ceux qui le croiraient. Mais la Bible ne les donne jamais vainqueurs de Dieu ou de quelque chose qu'il ne veut pas. Et quand l'apôtre Paul parle de ces puissances spirituelles, il sait très bien que les Romains vivent dans une société où déjà les croyances dans ces puissances avaient lieu, avaient cours et étaient très répandues. Croyances dans les étoiles, dans l'astrologie, dans le spiritisme. On n'a rien inventé de nos jours, croyez-moi. Et les Grecs, eux aussi, étaient des hommes qui avaient beaucoup plus peur que nos contemporains actuels de ces fameuses puissances, de ces fameuses dominations. Et en employant ces termes, l'apôtre leur montre peut-être, avec un peu de dérision et de vanité, que tous les efforts faits pour séparer les croyants de l'amour de Dieu, tous ces efforts-là sont vains, inutiles et inopérants. Quelle grâce le Seigneur veut encore nous faire et ne nous fait-il pas de nous maintenir constamment dans son amour. L'amour de Dieu bien plus grand que les puissances, bien plus grand que l'adversaire. Et pourtant, nous nous sentons si souvent faibles, n'est-ce pas ? Faibles face à l'adversaire, face à l'épreuve, face à la force apparente et bien réelle de nos ennemis. Et c'est là justement que le verset 39 prend toute sa valeur en disant que, quelles que soient les forces en présence, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Il affirme avec force que nous sommes, que nous demeurerons, quoi qu'il en soit, dans l'amour de Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. N'est-ce pas encourageant ? Quand tout va de travers au quotidien, comment être sûr de son amour en Jésus-Christ ? N'avons-nous pas l'Esprit Saint en nous ? Cet Esprit dont il a dit à ses disciples qu'il leur enverrait une fois qu'ils seraient partis ? Oui. Jésus-Christ est aujourd'hui présent en chacun de nous par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et c'est pourquoi il nous accorde également sa parole, car il sait que pour traverser toutes les circonstances de nos vies, nous avons besoin, dans son amour, d'être nourris quotidiennement par sa parole, qui est le pain de vie. Ne craignons donc pas l'adversaire. Quelle que soit sa force, car notre Dieu souverain est bien plus puissant que lui. Bien plus puissant que lui. Mais il me faut conclure en rappelant que l'amour de Dieu est bien plus grand, certes, que le péché, que nos circonstances, que l'adversaire même. Et en constatant cela et en nous nourrissant de sa parole, nous voulons vivre par sa force, bien sûr. Et comment alors nous ne pouvons pas dire à Dieu combien nous l'aimons, lui qui nous a aimés le premier. Comment ne pas le lui redire ? Nous voulons lui faire confiance. Nous voulons le suivre jusqu'au bout. Et demandons-lui peut-être, comme ses disciples l'ont fait, tout simplement, de nous augmenter la foi. J'ai cette certitude qu'il fera dans son amour, qu'il veut nous maintenir tous, les uns et les autres, fermes dans la foi. Jusqu'au bout, jusqu'à son retour. Alors, si j'avais encore une question à poser, peut-être, c'est celle du début. Êtes-vous sûr, sûr de l'amour de Dieu pour vous ? L'apôtre nous a donné des réponses. Je l'espère vivement pour chacun. Que l'amour de Dieu et que la paix de Jésus-Christ demeurent dans nos cœurs. Comme le dit l'apôtre dans 2 Thessaloniciens, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous et nous garde dans son amour. Amen. Je vous propose quelques instants de réflexion. Celui qui met en Jésus une pleine confiance jamais ne chancelle plus, complète et sa délivrance. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité à Christ et reprends courage. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Nous marcherons par la foi, nous triompherons par la foi. C'est notre Rédempteur qui nous rendra plus que vainqueurs. Levons-nous et chantons ce cantique.